Césarine Dietrich, troisième partie, chapitre 2. Je reprends mon récit à l'époque où Césarine atteignit sa majorité. Déjà, son père l'avait émancipée, en quelque sorte, en lui remettant la gouverne et la jouissance de la fortune de sa mère, qui était assez considérable. J'avais consacré déjà 6 ans à son éducation, et je peux dire que je ne lui avais rien appris, car, en tout, son intelligence avait vite dépassé mon enseignement. Quant à l'éducation morale, j'ignore encore si je dois m'attribuer l'honneur ou porter la responsabilité du bien et du mal qui était en elle. Le bien dépassait alors le mal, et j'eus quelquefois à combattre pour les lui faire distinguer l'un de l'autre. Peut-être, au fond, se moquait-elle de moi, en feignant d'être indécise. Mais je ne conseillerai jamais à personne de faire des théories absolues sur l'influence qu'on peut avoir en fait d'enseignement. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au bout de ces 6 années, j'aimais Césarine avec une sorte de passion maternelle, bien que je ne me fisse aucune illusion sur le genre d'affection qu'elle me rendait. C'était toute grâce, tout charme, toute séduction de sa part. C'était tout dévouement, toute sollicitude, toute tendresse de la mienne. Et il semblait que ce fût pour le mieux, car notre amitié se complétait par ce que chacune de nous y apportait. Cependant, le bonheur qui m'était donné par Césarine et par son père ne remplissait pas tout le vœu de mon cœur. Il y avait une personne, une seule, que je leur préférais, et dont la société constante m'eût été plus douce que tout autre. Je veux parler de mon neveu, Paul Gilbert. C'est pour lui que j'étais entrée chez les Dietrich, et s'il en eût témoigné le moindre désir, je les eusse quittés pour mettre ma pauvreté en commun avec la sienne, puisqu'il persistait, avec une invincible énergie, à ne profiter en rien de mes bénéfices. Je n'aimais décidément pas le monde, pas plus le groupe nombreux que Césarine appelait son intimité, que la foule brillante entassée à de certains jours dans ses salons. Mes heures fortunées, je les passais dans mon appartement avec 2 ou 3 vieux amis et mon Paul, quand il pouvait arracher 1 heure à son travail acharné. Je le voyais donc moins que tous les autres. C'était une grande privation pour moi, et souvent, je lui parlais de louer un petit entresol dans la maison voisine de sa librairie, afin qu'il pût venir au moins dîner tous les jours avec moi. Mais il refusait de rien changer encore à l'arrangement de nos existences. « Vous dîneriez bien mal avec moi, » me disait-il, « car j'ai quelquefois 5 minutes pour manger ce qu'on me donne, et je n'ai jamais le temps de savoir ce que c'est. Je vois bien que c'est là ce qui vous désole, ma bonne tante. Vous pensez que je me nourris mal, qu'il faudrait m'initier aux avantages du pot-au-feu patriarcal. Vous me forceriez de mettre 1 heure à mes repas. Je suis encore loin du temps où cette heure de loisir moral et de plénitude physique ne serait pas funeste à ma carrière. Je ne peux pas perdre un instant, moi. Je ne rêve pas, j'agis. Je ne me promène pas, je cours. Je ne fume pas, je ne cause pas, je ne songe pas, même en dormant. Je dors vite, je m'éveille de même, et tous les jours sont ainsi. J'arrive à mon but, qui est de gagner 12 000 francs par an. J'en gagne déjà 4. À mesure que je serai mieux rétribuée, j'aurai un travail moins pénible et moins assujettissant. Ce n'est pas juste, mais c'est la loi du travail. Au petit, la peine. Et quand gagneras-tu cette grosse fortune de 1 000 francs par mois?
Dans 10 années.
Et quand te reposeras-tu réellement?
Jamais.
Pourquoi me reposerais-je? Le travail ne fatigue que les lâches ou les sots.
J'entends par repos la liberté de s'occuper selon les besoins de son intelligence.
Je suis servie à souhait. Mon patron n'édite que des ouvrages sérieux. J'ai tant lu chez lui que je ne suis plus un ignorant.
voyant que mes connaissances lui sont utiles pour juger les ouvrages nouveaux qu'on lui propose, il me permet de suivre des cours et d'être plus occupé de science que de questions de boutique. Quand je surveille son magasin, quand je fais ses commissions, quand je cours à l'imprimerie, quand je corrige des épreuves, quand je fais son inventaire périodique, je suis une machine, j'en conviens. Mais ce sont mes conditions d'hygiène, et je m'arrange toujours pour avoir un livre sous les yeux quand une minute de répit se présente. Comme le cher patron a pris la devise « Time is money », il met à ma disposition pour ses courses de bonnes voitures qui vont vite, et en traversant Paris dans tous les sens avec une fiévreuse activité, j'ai appris les mathématiques et 2 ou 3 langues. Vous voyez donc que je suis aussi heureux que possible, puisque je me développe selon la nature de mes besoins. » Il n'y avait rien à objecter à ce jeune stoïque. J'étais fière de lui, car il savait beaucoup, et quand je le questionnais pour mon profit personnel, j'étais ravie de la promptitude, de la clarté et même du charme de ses résumés. Il savait se mettre à ma portée, choisir heureusement les mots qui, par analogie, me révélaient la philosophie des sciences abstraites. Je le trouvais charmant en même temps qu'admirable. J'étais éprise de son génie d'intuition. J'étais touchée de sa modestie, vaincue par son courage. J'avais pour lui une sorte de respect. Mais j'étais inquiète, malgré moi, de l'attention perpétuelle de cet esprit insatiable dans sa curiosité. Cette jeunesse austère m'effrayait. Sa figure sans beauté, mais sympathique et distinguée au sortir de l'adolescence, s'était empreinte dans l'âge viril d'une certaine rigidité douloureuse. Il était impossible de savoir s'il éprouvait jamais la fatigue physique ou morale. Il affirmait ne pas connaître la souffrance et s'étonnait de mes anxiétés. Il n'avait jamais éprouvé le désir ni senti le regret des avantages quelconques dont sa destinée l'avait privé. Esclave d'une position précaire, il s'en faisait une liberté inaliénable en l'acceptant, comme la satisfaction de ses goûts et de ses instincts. Il croyait suivre une vocation, là où il ne subissait peut-être en réalité qu'un servage. Monsieur Dietrich me questionnait souvent sur son compte, et je ne pouvais dissimuler le fond de tristesse qui me revenait chaque fois que j'avais à parler de ce cher enfant. Mais peu à peu, je dus m'abstenir de lui exprimer mes angoisses secrètes, parce qu'alors Monsieur Dietrich voulait améliorer l'existence de Paul. Et c'est à quoi Paul se refusait, avec tant de hauteur que je ne savais comment motiver son refus de comparaître devant un protecteur quelconque. Césarine ne s'y trompait pas, et elle était véritablement blessée de la sauvagerie de mon neveu. Elle l'attribuait à des préventions qu'il aurait eues, dès le principe, contre son père ou contre elle-même. Elle penchait vers la dernière opinion et s'en irritait comme d'une offense gratuite. Elle avait peine à me cacher l'espèce d'aversion enflammée qu'elle éprouvait en se disant qu'un homme qui ne la connaissait pas du tout, car il n'avait jamais voulu se laisser présenter, et il s'arrangeait pour ne jamais se rencontrer chez moi avec elle, pouvait songer à protester de gaieté de cœur contre son mérite. « C'est donc pour faire le contraire de tout le monde, » disait-elle, « car, que je sois quelque chose ou rien, tout ce qui m'approche est content de moi, me trouve aimable et bonne, et prétend que je ne suis pas un esprit vulgaire. » Je ne demande de louanges et d'hommages à personne, mais l'hostilité de parti pris me révolte. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de croire que ton neveu pose l'originalité, ou qu'il est un peu fou. » Je voyais croître son dépit, et elle en vint à me faire entendre que j'avais dû, dans quelques mouvements d'humeur, dire du mal d'elle à mon neveu. Je ne pus répondre qu'en riant de la supposition. « Tu sais bien, lui dis-je, que je n'ai pas de mouvement d'humeur. et que je ne peux jamais être tentée de dire du mal de ce que j'aime. Le refus de Paul à toutes vos invitations tient à des causes beaucoup moins graves, mais que tu auras peut-être quelque peine à comprendre. D'abord, il est comme moi, il n'aime pas le monde.
« Cela, reprit-elle, tu n'en sais rien, et il ne peut pas le savoir, puisqu'il n'y a jamais mis le pied. »
Raison de plus pour qu'il ait de la répugnance à s'y montrer. Il n'est pas tellement sauvage qu'il ne sache qu'il y faut apporter une certaine tenue de convention, manière, toilette et langage. Il n'a pas appris le vocabulaire des salons. Il ne sait pas même comment on salue telle ou telle personne.
Si fait, il a dû apprendre cela dans sa librairie et dans ses visites aux savants.
Tu ne me feras pas croire qu'il soit grossier et de manière choquante. Sa figure n'annonce pas cela.
Il y a autre chose.
Non, la chose principale, je te l'ai dite, c'est la toilette. Paul ne peut pas s'équiper de la tête aux pieds en homme du monde sans s'imposer des privations.
Et tu ne peux même pas lui faire accepter un habit noir et une cravate blanche ?
Je ne pourrais pas lui faire accepter une épingle, fût-elle de cuivre. Et puis le temps lui manque, puisque c'est tout au plus, si je le vois, une heure par semaine.
Il se moque de toi. Je parie bien qu'il fait des folies, tout comme un autre. Le marquis de Rivonnière n'est pas empêché d'en faire par sa passion pour moi. Et ton neveu n'est pas toujours plongé dans la science.
Il l'est toujours au contraire, et il ne fait pas de folie, j'en suis certaine.
Alors c'est un saint,
à moins que ce ne soit un petit cuistre, trop content de lui-même pour qu'on doive prendre la peine de s'occuper de lui.
Cette parole aigre me blessa un peu, malgré les caresses et les excuses de Césarine pour me la faire oublier. L'amour-propre s'en mêla, et je résolus de montrer à la famille Dietrich que mon neveu n'était pas un cuistre. C'est ici que se place dans ma vie une faute énorme, produite par un instant de petitesse d'esprit. On préparait une grande fête pour le 21e anniversaire de Césarine. Ce jour-là, dès le matin, son père, outre la pleine possession de son héritage maternel, lui constituait un revenu pris sur ses biens propres et la dotait pour ainsi dire, bien qu'elle ne voulût point encore faire choix d'un mari. Elle avait montré une telle aversion pour la dépendance dans les détails matériels de la vie, jusqu'à se priver souvent de ce qu'elle désirait plutôt que d'avoir à le demander, que M. Dietrich avait rompu de son propre mouvement ce dernier lien de soumission filiale. Césarine en était donc venue à ses fins, qui étaient de l'enchaîner et de lui faire aimer sa chaîne. Il était désormais, ce père prévenu, ce raisonneur rigide, le plus fervent, le plus empressé de ses sujets. Elle accepta ses dons avec sa grâce accoutumée. Elle n'était pas cupide, elle traitait l'argent comme un agent aveugle qu'on brutalise parce qu'il n'obéit jamais assez vite. Elle fut plus sensible à un magnifique écrin qu'au titre qui l'accompagnait. Elle fit sans projet de plaisir prochain, d'indépendance immédiate, pas un seul de mariage et d'avenir. Monsieur Dietrich se trouvait si bien du bonheur qu'il lui donnait qu'il ne désirait plus la voir mariée. Un soir, il y eut grand bal, et Paul consentit à y paraître. J'obtins de lui ce sacrifice en lui disant qu'on imputait à quelque secret mécontentement de ma part, que je lui aurais confié, l'éloignement qu'il montrait pour la maison Dietrich. Cet éloignement n'existait pas. Les raisons que j'avais données à Césarine étaient vraies. Il y en avait d'autres que j'ignorais, mais qui étaient complètement étrangères aux suppositions de mon élève. La difficulté de se procurer une toilette fut bientôt levée. L'ami de Paul, le jeune Latour, qui était de sa taille, l'équipa lui-même de la tête aux pieds. L'absence totale de prétention fit qu'il endossa et porta ce costume, nouveau pour lui, avec beaucoup d'aisance.
il se présenta sans gaucherie. S'il manquait d'usage, il avait assez de tact et de pénétration pour qu'il n'y parût pas. Messieurs Dietrich le trouvèrent fort bien et m'en firent compliment après quelques paroles échangées avec lui. Je savais que leur bienveillance pour moi les eût fait parler ainsi, quelle qu'eût été l'attitude de Paul. Mais Césarine, plus prévenue, était plus difficile à satisfaire, et je ne sais quelle fatalité me poussait à vaincre cette prévention. Elle était rayonnante, de parure et de beauté, lorsque, traversant le bal, suivie et comme acclamée par son cortège d'amis, de serviteurs et de prétendants, elle se trouva vis-à-vis de Paul, que je dirigeai vers elle pour qu'il pût la saluer. Paul n'était pas sans quelque curiosité de voir de près et dans tout son éclat cet astre tant vanté. C'est ainsi qu'il me parlait de Mademoiselle Dietrich. Mais c'était une curiosité toute philosophique et aussi désintéressée que s'il se fût agi d'étudier un manuscrit précieux ou un problème d'archéologie. Ce sentiment placide et ferme se lisait dans ses yeux brillants et froids. Je vis dans ceux de Césarine quelque chose d'audacieux comme un défi, et ce regard m'effraya. Dès que Paul l'eut salué, je le tirai par le bras et l'éloignai d'elle. J'eus comme un rapide pressentiment des suites fatales que pourrait avoir mon imprudence. Je fus sur le point de lui dire « C'est assez, va-t'en maintenant ». Mais dans la foule qui se pressait autour de la souveraine, je fus vite séparée de Paul, et comme j'étais la maîtresse agissante de la maison, chargée de toutes les personnes insignifiantes dont Mademoiselle Dietrich ne daignait pas s'occuper, je perdis de vue mon neveu pendant une heure. Tout à coup, comme je traversais, pour aller donner des ordres, une petite galerie si remplie de fleurs et d'arbustes qu'on en avait fait une allée touffue et presque sombre, je vis Césarine et Paul, seuls, dans ce coin de solitude, assis et comme cachés sous une faïence monumentale d'où s'échappaient et rayonnaient les branches fleuries d'un mimosa splendide. Il y avait là un sofa circulaire. Césarine s'éventait, comme une personne que la chaleur avait forcée de chercher un refuge contre la foule. Paul faisait la figure d'un homme qui a été ressaisi par hasard au moment de s'évader. « Ah, tu arrives au bon moment !» s'écria Césarine en me voyant approcher. « Nous parlions de toi. Assieds-toi là. Autrement, tous mes jaloux vont accourir et me faire un mauvais parti en me trouvant tête à tête avec monsieur ton neveu. Figure-toi, ma chérie, qu'il jure son honneur que je lui suis parfaitement indifférente, vu qu'il ne me connaît pas. Or, la chose est impossible !» Tu n'as pas consacré 6 ans de ta vie à me servir de sœur et de mère sans lui avoir jamais parlé de moi, comme tu m'as parlé de lui. Je le connais, moi. Je le connais parfaitement, par tout ce que tu m'as dit de ses occupations, de son caractère, de sa santé, de tout ce qui t'intéressait en lui. Je pourrais dire combien de rhumes il a toussé, combien de livres il a dévorés, combien de prix il a conquis au collège, combien de vertus il possède. Mais, interrompit gaiement mon neveu, vous ne sauriez dire combien de mensonges j'ai fait à ma tante pour avoir des friandises quand j'étais enrhumée, ou pour lui donner une haute opinion de moi quand je passais mes examens. Moi, je ne saurais dire combien d'illusions d'amour maternel se sont glissées dans le panégyrique qu'elle me faisait de sa brillante élève. Il est donc probable que vous ne me faites pas plus l'honneur de me connaître que je n'ai celui de vous apprécier. Vous n'êtes pas galant, vous, reprit Césarine d'un ton dégagé. Cela est bien certain, répondit-il d'un ton incisif. Je ne suis pas plus galant qu'un des meubles ou une des statues de votre palais de fées. Mon rôle est comme le leur, de me tenir à la place où l'on m'a mis et de n'avoir aucune opinion sur les choses et les personnes que je suis censé voir passer. Et que vous ne voyez réellement pas ? Et que je ne vois réellement pas. tant vous êtes ébloui ?
Tant je suis myope. »
Césarine se leva avec un mouvement de colère qu'elle ne chercha pas à dissimuler. C'était le premier que j'eusse vu éclater en elle, et il me causa une sorte de vertige qui m'empêcha de trouver une parole pour sauver, comme on dit, la situation.
« Ma chère amie, dit-elle en me reprenant brusquement son éventail, que je tenais machinalement, je trouve ton neveu très spirituel, mais c'est un méchant cœur. Dieu m'est témoin qu'en lui donnant rendez-vous sous ce mimosa, je venais à lui comme une sœur vient au frère dont elle ne connaît pas encore les traits. Je voyais en lui ton fils adoptif comme je suis ta fille adoptive. Nous avions fait, chacun de son côté, le voyage de la vie et acquis déjà une certaine expérience dont nous pouvions amicalement causer. Tu vois comme il m'a reçu. J'ai fait tous les frais, je te devais cela. Mais à présent, tu permets que j'y renonce. Son aversion pour moi est une chose tellement inique que je me dois à moi-même de ne m'en plus soucier. » Je voulus répondre. Paul me serra le bras si fort pour m'en empêcher que je ne pus retenir un cri. Césarine s'en aperçut et sourit avec une expression de dédain qui ressemblait à la haine. Elle s'éloigna. Paul me retenait toujours. « Laissez-la, ma tante, laissez-la s'en aller, » me dit-il dès qu'elle fut sortie du bosquet. Et reprenant avec moi, sous le coup de l'émotion, le tutoiement de son enfance, « Je te jure, » s'écria-t-il, « que cette fille est insensée ou méchante. Elle est habituée à tout dominer, elle veut mettre son pied mignon sur toutes les têtes. « Non, » lui dis-je, « elle est bonne. C'est une enfant gâtée, un peu coquette, voilà tout. Qu'est-ce que cela te fait ?»«
C'est vrai, ma tante, qu'est-ce que cela me fait ?»«
Pourquoi trembles-tu ? »
« Je ne sais pas. Est-ce que je tremble ?»«
Tu es aussi en colère qu'elle. Voyons, que s'est-il passé ? Que te disait-elle quand je suis arrivée ? T'avait-elle donné réellement rendez-vous ici ?»«
Oui. Un domestique m'avait remis, au moment où j'allais me retirer, car je ne compte point passer la nuit au bal, un petit carré de papier. L'ai-je perdu ? Non, le voici. Regarde. » Dans la petite galerie arrangée en bosquet au pied du plus grand vase, sous le plus grand arbuste, tout de suite.
« Est-ce toi, ma reine, qui a écrit cela ?»«
Nullement. Mais on peut s'y tromper. Césarine avait une mauvaise écriture quand je suis entrée dans la maison. Elle a trouvé la mienne à son gré et l'a si longtemps copiée qu'elle en est venue à l'imiter complètement.
Alors c'est bien elle qui me donnait ce rendez-vous. Ou, pour mieux dire, cette sommation de comparaître à sa barre. Moi, j'ai été dupe. J'ai cru que tu avais quelque chose d'important et de pressé à me dire. J'ai jeté là mon pardessus, que je tenais déjà, je suis accourue. Elle était assise sur ce divan, lançant les éclairs de son éventail dans l'ombre bleue de ce feuillage. Je n'ai pas la vue longue, je ne l'ai reconnue que quand elle m'a fait signe de m'asseoir auprès d'elle, tout au fond de ce cintre, en me disant d'un ton dégagé « Si on vient, vous passerez par ici, moi par là. Ce n'est pas l'usage qu'une jeune fille se ménage ainsi un tête-à-tête avec un jeune homme, et on me blâmerait. Moi, je ne me blâme pas, cela me suffit. Écoutez-moi, je sais que vous ne m'aimez pas, et je veux votre amitié. Je ne m'en irai que quand vous me l'aurez donnée. »
Étourdie de ce début, mais ne croyant pas encore à une coquetterie si audacieuse, j'ai répondu que je ne pouvais aimer une personne sans la connaître, et que, ne pouvant pas la connaître, je ne pouvais pas l'aimer.
« Et pourquoi ne pouvez-vous pas me connaître ?»«
Parce que je n'en ai pas le temps. »«
Vous croyez donc que ce serait bien long ?»«
C'est probable. Je ne sais rien du milieu qu'on appelle le monde. » Je n'en comprends ni la langue, ni la pantomime, ni le silence.
Alors, vous ne voyez en moi que la femme du monde ?
N'est-ce pas dans le monde que je vous vois ?
Pourquoi n'avez-vous jamais voulu me voir en famille ?
Ma tante a dû vous le dire, je n'ai pas de loisirs.
Vous en trouvez pourtant pour causer avec des gens graves.
Il y a ici des savants. Je leur ai demandé s'ils vous connaissaient. Ils m'ont dit que vous étiez un jeune homme très fort. »
En thème ?
En tout.
Et vous avez voulu vous en assurer ?
Ceci veut être méchant. Vous ne m'en croyez pas capable ?
C'est parce que je vous en crois très capable que mon petit orgueil se refuse à l'examen. »
Elle n'a pas répondu, ajouta Paul. Et reprenant ce jeu d'éventail que je trouve agaçant comme un écureuil tournant dans une cage, elle s'est écriée tout d'un coup « Savez-vous, monsieur, que vous me faites beaucoup de mal ?»
Je suis levée, tout effrayée, me demandant si mon pied n'avait pas heurté le sien.
« Vous ne me comprenez pas, » a-t-elle dit en me faisant rasseoir. « Je suis nourrie d'idées généreuses. On m'a enseigné la bienveillance comme une vertu sœur de la charité chrétienne. Et je me trouve, pour la première fois de ma vie, en face d'une personne dénigrante, visiblement prévenue contre moi. Toute injustice me révolte et me froisse. Je veux savoir la cause de votre aversion. »
J'ai, en vain, protesté en termes polis de ma complète indifférence, elle m'a répondu par des sophismes étranges.
« Ah, ma tante, tu ne m'as jamais dit la vérité sur le compte de ton élève. Droite et simple, comme je te connais. Cette jeune perverse a dû te faire souffrir le martyre. Car elle est perverse, je t'assure. Je ne peux pas trouver d'autre mot. Il m'est impossible de te redire notre conversation. Cela est encore confus dans ma tête, comme un rêve extravagant. Mais je suis sûre qu'elle m'a dit que je l'aimais d'amour, que ma méfiance d'elle n'était que de la jalousie. Et comme je me défendais d'avoir gardé le souvenir de sa figure, elle a prétendu que je mentais et que je pouvais bien lui avouer la vérité, vu qu'elle ne s'en offenserait pas, sachant, disait-elle, qu'entre personnes de notre âge, l'amitié chez l'homme commençait inévitablement, fatalement, par l'amour pour la femme. J'ai demandé, un peu brutalement peut-être, si cette fatalité était réciproque. « Heureusement non, » a-t-elle répondu d'un ton moqueur jusqu'à l'amertume, que contredisait un regard destiné sans doute à me transpercer. Alors, comprenant que je n'avais pas affaire à une petite folle, mais à une grande coquette, je lui ai dit « Mademoiselle Dietrich, vous êtes trop forte pour moi. Vous admettez qu'une jeune fille pure permette le désir aux hommes sans cesser d'être pure. C'est sans doute la morale de ce monde que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. Car grâce à vous, je vois que j'y serai fort déplacée et m'y déplairai souverainement. » Si je n'ai pas dit ces mots-là, j'ai dit quelque chose d'analogue et d'assez clair pour provoquer l'accès de fureur où elle entrait quand tu es venue nous surprendre. « Et maintenant, ma tante, direz-vous que c'est là une enfant gâtée un peu coquette ? Je dis, moi, que c'est une femme déjà corrompue et très dangereuse pour un homme qui ne serait pas sur ses gardes. Elle a cru que j'étais cet homme-là. Elle s'est trompée. Je ne la connaissais pas. Elle m'était indifférente. À présent, elle pourrait m'interroger encore. Je lui répondrai tout franchement qu'elle m'est antipathique. » C'est pourquoi, mon cher enfant, il ne faut plus t'exposer à être interrogé. Tu vas te retirer, et quand tu viendras me voir, tu sonneras 3 fois à la petite grille du jardin. J'irai t'ouvrir moi-même, et à nous deux, nous saurons faire face à l'ennemi s'il se présente. Je vois que Césarine t'a fait peur. Moi, je la connais, je sais que toute résistance l'irrite, et que pour la vaincre, elle est capable de beaucoup d'obstination. Telle qu'elle est, je l'aime, vois-tu. On ne s'occupe pas d'un enfant durant des années sans s'attacher à lui, quel qu'il soit. Je sais ses défauts et ses qualités. J'ai eu tort de t'amener chez elle, puisque le résultat est d'augmenter ton éloignement pour elle, et qu'il y a de sa faute dans ce résultat. Je te demande, par affection pour moi, de n'y plus songer et d'oublier cette absurde soirée comme si tu l'avais rêvée. Est-ce que cela te semble difficile ?
Nullement, ma tante. Il me semble que c'est déjà fait.
Je n'ai pas besoin de te dire que tu dois aussi à mon affection pour Césarine de ne jamais raconter à personne l'aventure ridicule de ce soir.
Je le sais, ma tante. Je ne suis ni fat ni bavard, et je sais fort bien que le ridicule serait pour moi. Je m'en vais, et ne vous reverrai pas de quelques jours, de quelques semaines peut-être. Mon patron m'envoie en Allemagne pour ses affaires, et ceci arrive fort à propos.
Pour Césarine, peut-être, elle aura le temps de se pardonner à elle-même et d'oublier sa faute. Quant à toi, je présume que tu n'as pas besoin de temps pour te remettre d'une si puérile émotion.
Ma reine, je vous entends et je vous devine. Vous m'avez trouvée trop émue, et au fond cela vous inquiète. Je ne veux pas vous quitter sans vous rassurer, bien que l'explication soit délicate. Ni mon esprit, ni mon cœur n'ont été troublés par le langage de Mademoiselle Dietrich. Au contraire, mon cœur et mon esprit repoussent ce caractère de femme. Il y a plus. Mes yeux ne sont pas épris du type de beauté qui est l'expression d'un pareil caractère. En un mot, Mademoiselle Dietrich ne me plaît même pas. Mais, belle ou non, une femme qui s'offre, même quand c'est pour tromper et railler, jette le trouble dans l'essence d'un homme de mon âge. On peut manier la braise de l'amour sans se laisser incendier, mais on se brûle le bout des doigts. Cela irrite et fait mal. Donc, je l'avoue, j'ai eu la colère de l'homme piqué par une guêpe. Voilà tout. Je ne craindrai pas un nouvel assaut. Mais se battre contre un tel ennemi est si puéril que je ne m'exposerai pas à une nouvelle piqûre. Je dois respecter la guêpe à cause de vous. Je ne puis l'écraser. Cette bataille à coups d'éventail me ferait faire la figure d'un sot. Je ne désire pas la renouveler. Mon indignation est passée. Je m'en vais tranquille, comme vous voyez. Dormez tranquille aussi. Je vous jure bien que Mademoiselle Dietrich ne fera pas le malheur de ma vie, et que dans 2 heures, en corrigeant mes épreuves, je ne me tromperai pas d'une virgule. Je le voyais calme, en effet. Nous nous séparâmes. Quand je rentrais dans le bal, Césarine dansait avec le marquis de Rivonnières et paraissait fort gaie. Le lendemain, elle vint me trouver chez moi. « Sais-tu la nouvelle du bal ?» me dit-elle. « On a trouvé mauvais que je fusse couverte de diamants. Tous les hommes m'ont dit que je n'en avais pas encore assez, puisque cela me va si bien. Mais toutes les femmes ont boudé, parce que j'en avais plus qu'elles. Et mes bonnes amies m'ont dit, d'un air de tendre sollicitude, que j'avais tort, étant une demoiselle, d'afficher un luxe de femme. J'ai répondu ce que j'avais résolu de répondre. « Je suis majeure d'aujourd'hui, et je ne suis pas encore sûre de vouloir jamais me marier. J'ai des diamants qui attendent peut-être en vain le jour de mes noces et qui s'ennuient de briller dans une armoire. Je leur donne la volée aujourd'hui, puisque c'est fête, et s'ils m'en les disent, je les remettrai en prison. Trouvez-vous qu'ils m'en les disent ?» Cette question m'a fait recueillir des compliments en pluie. Mais de la part de mes bonnes amies, c'était de la pluie glacée. Dès lors, j'ai vu que mon triomphe était complet, et mes écrins ne seront pas mis en pénitence.
J'aurais cru, lui dis-je, que vous auriez quelque chose de plus sérieux à me raconter.
Non, ceci est ce qu'il y a eu de plus sérieux dans mon anniversaire.
Pas selon moi. Le rendez-vous donné à mon neveu est une plaisanterie, je le sais. Mais elle est blâmable, et vous m'en voyez fort mécontente. Césarine n'était pas habituée aux reproches sous cette forme directe. Toute la préoccupation de sa vie étant de faire à sa tête sans laisser le prétexte au blâme. Elle fut comme stupéfaite et fixa sur moi ses grands yeux bleus sans trouver une parole pour confondre mon audace.
« Ma chère enfant, lui dis-je, ce n'est pas votre institutrice qui vous parle. Je ne le suis plus. Vous voilà maîtresse de vous-même, émancipée de toute contrainte. Et comme votre père a dû vous dire que désormais je n'accepterai plus d'honoraires pour une éducation terminée,
il n'y a plus entre vous et moi que les liens de l'amitié. »
« Tu vas me quitter ? »
s'écria-t-elle en se jetant à genoux devant moi, avec un mouvement si spontané et si désolé que j'en fus troublée. Mais je craignis que ce ne fût un de ces petits drames qu'elle jouait avec conviction, sauf à en rire une heure après.
« Je ne compte pas vous quitter pour cela, » repris-je, « à moins que... »
Elle m'interrompit.
« Tu me dis vous ? Tu ne m'aimes plus. Si tu me dis vous, je n'écoute plus rien, je vais pleurer dans ma chambre. »
« Eh bien, je ne te quitterai pas, à moins que tu ne m'y forces en te jouant de mes devoirs et de mes affections. »
« Et comment la pensée pourrait-elle m'en venir ?»«
Je te l'ai dit, ce n'est pas l'institutrice, ce n'est même pas l'amie qui se plaint de toi. C'est la tante de Paul Gilbert. Me comprends-tu maintenant ?»«
Ah, mon Dieu, ton neveu ! Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Est-ce que sans le vouloir... « Je l'aurais rendu amoureux de moi ?»«
Tu le voudrais bien, » répondis-je, blessé de la joie secrète que trahissait son sourire. « Ce serait une vengeance de son insubordination. Mais il ne te fera pas goûter ce plaisir des dieux. Il n'est pas et ne sera jamais épris de toi. Tu as perdu ta peine. On perd de son prestige en perdant de sa dignité. »
« C'est là ce qu'il t'a dit ?»«
En ne me défendant pas de te le redire. »«
L'imprudent !»
s'écria-t-elle avec un éclat de rire vraiment terrible.
« Oui, oui, » repris-je, « j'entends fort bien la menace, et je te connais plus que tu ne penses, mon enfant. Tu crois m'avoir tellement séduite que je ne puisse plus voir que les beaux côtés de ton caractère. Mais je suis femme, et j'ai aussi ma finesse. » Je t'aime pour tes grandes qualités, mais je vois tes grands défauts. Je devrais dire le grand défaut, car il n'y en a qu'un. Mais il est effroyable.
L'orgueil, n'est-ce pas ?
Oui, et je ne m'endors pas sur le danger. C'est une lutte à mort que tu entreprends contre ce chétif révolté que tu crois incapable de résistance. Tu te trompes, il résistera. Il a une force que tu n'as pas, la sagesse de la modestie.
Tout le contraire du délire de l'orgueil.
Eh bien, si j'étais aussi effroyable que tu le dis, tu allumerais le feu de ma volonté en me montrant quelqu'un de plus fort que moi. Tu me riverais au désir de sa perte. Mais rassure-toi, Pauline, je ne suis pas le grand personnage de drame ou de roman que tu crois. Je suis une femme frivole et sérieuse. J'aime le pour et le contre. La vengeance me plairait bien, mais le pardon me plaît aussi. Et du moment que tu me demandes grâce pour ton neveu, je te promets de ne plus le taquiner.
Je ne te demande pas de grâce. C'est à moi de t'accorder la tienne pour ce méchant jeu qui n'a pas réussi, mais qui voulait réussir. Sauf à faire mon malheur en faisant celui de l'être que j'aime le plus au monde. Pour cette faute préméditée, lâche par conséquent, je ne te pardonnerai que si tu te repens. Je n'avais jamais parlé ainsi à Césarine. Elle fut brisée par ma sévérité. Je la vis pâlir de chagrin, de honte et de dépit. Elle essaya encore de lutter.
« Voilà des paroles bien dures, » dit-elle avec effort, car ses lèvres tremblaient et ses paroles étaient comme bégayées.
« Je ne reçois pas d'ordre, tu le sais, et je me regarde comme dégagée de tout devoir quand on veut m'en faire une loi.
Je t'en ferai au moins une condition. Si tu ne me donnes pas ta parole d'honneur de renoncer à ton méchant dessein, je sors d'ici à l'instant même pour n'y rentrer jamais. »
Elle fondit en larmes.
« Je vois ce que c'est, » s'écria-t-elle. « Tu cherches un prétexte pour t'en aller. Tu n'as plus ni indulgence ni tendresse pour moi. Tu fais tout ce que tu peux pour m'irriter, afin que je m'oublie, que je te dise une mauvaise parole et que tu puisses te dire offensée. Eh bien, voilà tout ce que je te dirai. Tu es cruelle et tu me brises le cœur. C'est l'ouvrage de M. Paul. Il ne m'a pas comprise. Il est mon ennemi
Il m'a calomnié auprès de toi. Il était jaloux de ton affection. Il la voulait pour lui seul. Le voilà content, puisqu'il me l'a fait perdre. Alors, puisque c'est ainsi, écoute ma justification et retire ta malédiction. Ton Paul n'était pas un jouet pour moi. Je voulais sérieusement son amitié. Tout en la lui demandant, je sentais la mienne éclore, si vive, si soudaine, que c'était peut-être de l'amour. « Tais-toi, » m'écriai-je, « tu mens, et cela est pire que tout. » « Mais depuis quand ? » répliqua-t-elle en se levant avec une sorte de majesté. « Me croyez-vous capable de descendre au mensonge ? Vous voulez tout savoir ? Sachez tout. J'aime Paul Gilbert, et je veux l'épouser. » « Miséricorde ! » m'écriai-je. « Voici bien une autre idée. Assez, ma pauvre enfant. Ne devenez pas folle pour vous justifier d'être coupable. » « Et qu'est-ce que mon idée a donc de si étrange et de si délirant ? Ne suis-je pas en âge de savoir ce que je pense et ne suis-je pas libre d'aimer qui me plaît ? Tenez, vous allez voir. » Et elle s'élança vers son père qui venait nous chercher pour nous faire faire le tour du lac. « Écoute, mon père chéri, lui dit-elle en lui jetant ses bras autour du cou. « Il ne s'agit pas de me promener, il s'agit de me marier. Y consens-tu ?
« Oui, si tu aimes quelqu'un, »
répondit-il sans hésiter.
« J'aime quelqu'un. »
« Ah, le marquis,
pas du tout. Il n'est pas marquis, celui qui me plaît. Il n'a pas de titre.
Ça t'est bien égal. »
« Parfaitement. »
« Et il n'est pas riche, il n'a rien. »
« Ça ne te fait rien non plus. »
« Rien du tout. » « Mais alors, je le veux pur, intelligent, laborieux, « homme de mérite réel et sérieux en un mot. »«
Il est tout cela. »«
Jeune ? » ?»«
23 ou 24 ans. »«
C'est trop jeune, c'est un enfant. »
J'empêchai Césarine de répliquer.
« C'est un enfant, » répondis-je, « et par conséquent, ce ne peut être qu'un brave garçon dont le mérite n'a pas porté ses fruits. N'écoutez pas Césarine, elle est folle ce matin. » Elle vient d'improviser le plus insensé, le plus invraisemblable et le plus impossible des caprices. Elle met le comble à sa folie en vous le disant devant moi. C'est un manque d'égard, un manque de respect envers moi, et vous m'en voyez beaucoup plus offensé que vous ne pourriez l'être.
Monsieur Dietrich, stupéfait de la dureté de mon langage, me regardait avec ses beaux yeux pénétrants. Il vint à moi, et, me baisant la main,
« Je devine de qui il s'agit, » me dit-il. « Césarine le connaît donc ?»«
Elle lui a parlé hier pour la première fois. »«
Alors elle ne peut pas l'aimer. » »«
Et lui ?»«
Il me déteste, » répondit Césarine.
« Ah, très bien, » dit Monsieur Dietrich en souriant. « C'est pour cela. Eh bien, ma pauvre enfant, tâche de te faire aimer. » Mais je t'avertis d'une chose, c'est qu'il faudra l'épouser, car je ne te laisserai pas imposer à un autre le postulat illusoire de Monsieur de Rivonnière. Je me suis aperçu hier, au bal, du ridicule de sa situation. Tout le monde se le montrait en souriant. Il passait pour un niais. Tu passes certainement pour une railleuse, et de là à passer pour une coquette, il n'y a qu'un pas.
Eh bien, mon père, je ne passerai pas pour une coquette. J'épouserai celui que je choisis.
« Y consentez-vous, mademoiselle de Nermont ? » dit Monsieur Dietrich.
« Non, monsieur, » répondis-je. « Je m'y oppose formellement. Et si nous en sommes là, au nom de mon neveu, je refuse. »«
Tu ne peux pas refuser en son nom, puisqu'il ne sait rien, » s'écria Césarine. « Tu n'as pas le droit de disposer de son avenir sans le consulter. »
« Je ne le consulterai pas, parce qu'il doit ignorer que vous êtes folle. »«
Tu aimes mieux qu'il me croie coquette. Il pourrait m'adorer, et tu veux qu'il me méprise. »«
C'est toi, ma Pauline, qui deviens folle. » »«
Écoute, papa, j'ai fait une mauvaise action hier. C'est la première de ma vie. Il faut que ce soit la dernière. »« J'ai voulu punir Monsieur Paul de ses dédains pour nous, pour moi particulièrement. »
Je lui ai fait des avances avec l'intention de le désespérer quand je l'aurais amené à mes pieds. C'est très mal, je le sais, j'en suis punie. Je me suis brûlée à la flamme que je voulais allumer. J'ai senti l'amour me mordre le cœur jusqu'au sang. Et si je n'épouse pas cet homme-là, je n'aimerai plus jamais, je resterai fille.
Tu resteras fille, tu épouseras, tu feras tout ce que tu voudras,
excepté de te compromettre.
Voyons, mademoiselle de Nermont, pourquoi vous opposeriez-vous à ce mariage, si l'intention de Césarine devenait sérieuse?
Cela pourrait arriver,
et quant à moi, je ne pense pas qu'elle pût faire un meilleur choix.
Monsieur Gilbert est jeune, mais je retire mon mot, il n'est point un enfant.
Sa fière attitude vis-à-vis de nous, ses lettres que vous m'avez montrées, son courage au travail, l'espèce de stoïcisme qui le distingue, enfin les renseignements très sérieux et venant de haut, que sans les chercher, j'ai recueillis hier sur son compte, voilà bien des considérations. Sans parler de sa famille, qui est respectable et distinguée. Sans parler d'une chose qui a pourtant un très grand poids dans mon esprit, sa parenté avec vous, les conseils qu'il a reçus de vous.
Pour refuser aussi nettement que vous venez de le faire, il faut qu'il y ait une raison majeure.
Et il ne vous plaît peut-être pas de me la dire devant ma fille.
Vous me la direz, à moi.
Tout de suite, s'écria Césarine en sortant avec impétuosité.
Oui, tout de suite, reprit M. Dietrich en refermant la porte derrière elle. Avec Césarine, il ne faut laisser couver aucune étincelle sous la cendre. Craignez-vous d'être accusé d'ambition et de savoir-faire?
Oui, monsieur, il y a cela d'abord.
Vous êtes au-dessus.
On est au-dessus de rien dans ce monde.
Qui me connaît assez pour me disculper de toute préméditation, de toute intrigue?
Fort peu de gens.
Je suis dans une position trop secondaire pour avoir beaucoup de vrais amis. La faveur de mon neveu ferait beaucoup de jaloux. Ni lui ni moi n'accepterions, sans une mortelle souffrance, les commentaires malveillants de votre entourage.
Et votre entourage, c'est tout Paris, c'est toute la France.
Non, non. Notre réputation nous est trop chère pour la compromettre ainsi.
Si notre entourage s'étend si loin, il nous sera facile de faire connaître la vérité. Et soyez sûr qu'elle est déjà connue.
Aucune des nombreuses personnes qui vous ont vu ici n'élèvera le moindre doute sur la noblesse de votre caractère.
Quant à Monsieur Paul, il ferait des jaloux, certainement. Mais qui n'en ferait pas en épousant Césarine?
Si l'on s'arrête à cette crainte, on en viendra à se priver de toute puissance, de tout succès, de tout bonheur.
Voilà donc, selon moi, un obstacle chimérique qu'il nous faudrait mettre sous nos pieds.
Dites-moi les autres motifs de votre épouvante.
Il n'y en a plus qu'un, mais vous en reconnaîtrez la gravité. Le caractère de votre fille et celui de mon neveu sont incompatibles. Césarine n'a qu'une pensée, faire que tout lui cède.
Paul n'en a qu'une aussi, ne céder à personne.
Cela est grave, en effet.
Mais qui sait si ce contraste ne ferait pas le bonheur de l'un et de l'autre?
Césarine vaincue par l'amour, forcée de respecter son mari et l'acceptant pour son égal, rentrerait dans le vrai et ne nous effraierait plus par l'abus de son indépendance. Paul, adouci par le bonheur, apprendrait à céder à la tendresse et à y croire.
En supposant que ce résultat pût jamais être obtenu, que de luttes entre eux, que de déchirements, que de catastrophes peut-être.
Non, monsieur Dietrich, n'essayons pas de rapprocher ces deux extrêmes.
Ayez peur pour votre enfant, comme j'aurais peur pour le mien.
Les grandes tentatives peuvent être bonnes dans les cas désespérés, mais ici, vous n'avez affaire qu'à une fantaisie spontanée.
Il y a une heure, si j'eusse demandé à Césarine d'épouser Paul, elle se serait étouffée de rire. C'est devant mes reproches que, se sentant coupable, elle a imaginé cette passion subite pour se justifier. dans une heure. Allez lui dire que vous ne consentez pas plus que moi. Vous la soulagerez, j'en réponds, d'une grande perplexité. »
Ce que vous dites là est fort probable. Je la verrai tantôt. Laissons-lui le temps de s'effrayer de son coup de tête. Je suis en tout de votre avis, mademoiselle de Nermont, excepté en ce qui touche votre fierté. S'il n'y avait pas d'autre obstacle, je travaillerais à la vaincre. Je suis l'homme de mes principes. Je trouve équitable et noble d'allier la pauvreté à la richesse quand cette pauvreté est digne d'estime et de respect. Je tiens donc la pauvreté pour une vertu de premier ordre de M. Paul Gilbert. Sachez qu'en l'invitant à venir chez moi, je m'étais dit qu'il pourrait bien convenir à ma fille et que je ne m'en étais point alarmé. Quand M. Dietrich m'eut quitté, je me sentis bouleversé et obsédé d'indécision et de scrupules. Avais-je en effet le droit de fermer à Paul un avenir si brillant, une fortune tellement inespérée? Ma tendresse de mère reprenant le dessus, je me trouvais aussi cruelle envers lui que lui-même. Cet enfant, dont le stoïcisme me causait tant de soucis, je pouvais en faire un homme libre, puissant, heureux peut-être, car qui sait si mademoiselle Dietrich ne serait pas guérie de son orgueil par le miracle de l'amour? J'étais toute tremblante, comme une personne qui verrait un paradis terrestre de l'autre côté d'un précipice et qui n'aurait besoin que d'un instant de courage pour le franchir. Je ne revis Césarine qu'à l'heure du dîner. Je la trouvai aussi tranquille et aussi aimable que si rien de grave ne se fût passé entre nous. M. Dietrich dînait à je ne sais plus quelle ambassade. Césarine taquina amicalement la tante Elmina, au dessert, sur le vert de sa robe et le rouge de ses cheveux. Mais quand nous passâmes au salon, elle cessa tout à coup de rire, et m'entraînant à l'écart, « Il paraît, me dit-elle, que ni mon père ni toi ne voulez accorder la moindre attention à mon sentiment ?» et que vous ne me permettez plus de faire un choix? Papa a été fort doux, mais très roide, au fond. Cela signifie pour moi qu'il cédera tout d'un coup quand il me verra décider. Il n'a pas su me cacher qu'il me demandait tout bonnement de prendre le temps de la réflexion. Quant à toi, ma chérie, ce sera à lui de te faire révoquer ta sentence. Je l'en chargerai. Et dans tout cela, vous disposerez, lui et toi, de la volonté de mon neveu? Ton neveu, c'est à moi de lui donner confiance. C'est un travail intéressant que je me réserve. Mais il est absent, et ce répit va me servir à convaincre mon père et toi du sérieux de ma résolution. Comment sais-tu que mon neveu est absent? Parce que j'ai pris mes informations. Il est parti ce matin pour Leipzig. Moi, j'ai résolu de mettre à profit cette journée pour me débarrasser une bonne fois des espérances de M. de Rivonnière.
Tu lui as encore écrit?
Non, je lui ai fait dire par Dubois, son vieux valet de chambre, qui m'apportait un bouquet de sa part, de venir ce soir prendre une tasse de thé avec nous. De très bonne heure, parce que je suis encore fatiguée du bal et veux me coucher avec les poules. Il sera ici dans un instant. Tiens, on sonne au jardin, le voilà.
C'est donc pour être seule avec lui que tu as voulu dîner seule aujourd'hui avec ta tante et moi?
C'est pour cela. Entends-tu sa voiture? Regarde si c'est bien lui. Je ne veux recevoir que lui.
Faut-il vous laisser ensemble?
Non, certes, je ne l'ai jamais admis que je sache au tête-à-tête. Ma tante nous laissera, je l'ai averti. Toi, je te prie de rester.
J'ai fort envie, au contraire, de te laisser porter seul le poids de tes imprudences et de tes caprices.
Alors, tu me compromets.